Merci beaucoup, Madame Lapointe. Alors, j'invite tout de suite la prochaine conférencière, donc Madame Angèle Christin, qui est doctorante maintenant au département de sociologie de l'Université Princeton aux États-Unis. C'est une ancienne élève de l'École normale supérieure de France et elle est donc étudiante doctorante maintenant. Elle a publié un ouvrage ethnographique en sociologie du droit et de la justice. C'était en 2008 et ça s'appelait « Comparutions immédiates, enquête sur une pratique judiciaire ». Elle s'intéresse depuis à la sociologie de la culture dans une perspective comparatiste en s'appuyant sur des méthodes quantitatives. Elle a récemment traité de la question de l'éclectisme musical contemporain en France et aux États-Unis, ainsi qu'elle s'est penchée sur les déterminants de la consommation culturelle des femmes dans les deux pays, France et États-Unis. Alors voilà, Madame Christin, s'il vous plaît.
Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup de me permettre de présenter mes travaux aujourd'hui. Donc, comme vous le disiez, je vais aborder la question des goûts musicaux en France et aux États-Unis à l'ère du numérique. Tout d'abord, une question assez classique en sociologie, c'est pourquoi s'intéresser aux goûts musicaux ? Plutôt, qu'est-ce que la sociologie a à dire sur les goûts musicaux par rapport à des sujets traditionnellement plus sociologiques, comme le travail, l'immigration, la délinquance ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une relation extrêmement complexe entre statut social et goût esthétique. Et c'est une relation à double sens, c'est-à-dire que d'un côté, l'origine sociale et le statut social des gens a une influence sur la probabilité d'avoir certains goûts esthétiques et en particulier musicaux. Donc c'est par exemple, les gens des classes supérieures ont plus de probabilité d'aimer la musique classique et l'opéra, et maintenant le jazz. Inversement, avoir certains goûts musicaux et esthétiques permet de faire la différence, notamment dans le système scolaire et dans les probabilités d'accès à l'emploi. Donc c'est par exemple l'idée que si jamais on est capable de parler de musique classique à son employeur au moment de l'entretien d'embauche, on a plus de chances d'être recruté. Donc il y a un lien très fort entre goût esthétique et inégalité sociale, et souvent, les goûts esthétiques, en particulier musicaux, peuvent renforcer les inégalités sociales. Et donc c'est pour cela que la sociologie a beaucoup à dire sur les goûts musicaux. Donc il y a deux cas, deux pays qui sont très souvent contrastés en termes de goût esthétique. C'est la France et les États-Unis. Donc l'idée ici, c'est que la France est un pays de culture classique qui est promue par la politique culturelle du ministère de la Culture, et où il existe une homologie très forte entre statut social et goût esthétique. Donc c'est le pays de la distinction, le pays des connaisseurs. En revanche, aux États-Unis, il y a tout un discours sur le fait que c'est un pays de culture de masse, un pays de tolérance culturelle, où aimer tel genre de musique plutôt que tel autre n'a pas d'importance. Et tous ces discours remontent en fait à assez longtemps, puisque c'est Tocqueville qui, le premier, a commencé à indiquer ces différences. Donc ma question ici, et ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que c'est toujours le cas ? Et en particulier, comment est-ce que ces deux modèles ont évolué avec le développement massif de l'usage d'Internet, en particulier dans le cas des goûts musicaux ? Alors, ce premier graphique donne juste une idée de l'usage quotidien d'Internet en fonction de l'âge dans les deux pays. Donc, c'est sur l'ensemble de la population. Donc, comme vous pouvez voir, en bleu clair, c'est les jeunes, c'est-à-dire nés après 73, donc qui ont 37 ans aujourd'hui et moins de 35 ans au moment de l'enquête. Donc, comme vous pouvez voir, l'usage quotidien d'Internet est extrêmement élevé. 62% des jeunes utilisent Internet quotidiennement aux États-Unis, 58% des jeunes français, donc c'est très proche. Après, la barre jaune, c'est pour la génération intermédiaire, donc née entre 47 et 73. Donc, on voit que ce n'est pas très différent aux États-Unis, c'est-à-dire l'écart entre la consommation quotidienne d'Internet est assez proche, enfin, l'écart est très petit entre les très jeunes et la génération intermédiaire. Et par contre, il y a un vrai décrochage en France, où seulement 35% de la génération intermédiaire utilise Internet tous les jours. Et enfin, la génération pré-baby-boom, c'est-à-dire née avant 47, on voit qu'en France, notamment, l'usage quotidien d'Internet est très bas, c'est moins de 10%. Donc voilà, juste pour donner en fait un contexte, est-ce que ces différences générationnelles dans l'usage d'Internet ont un impact sur la structure des goûts musicaux dans les deux pays ? Avant de rentrer dans le vif des données, je vais d'abord brièvement résumer la littérature sociologique sur le sujet. Donc il y a deux grandes théories du rapport entre statut social et goût esthétique qui ont été élaborées, une en France et l'autre aux États-Unis, l'une sur des données françaises et l'autre sur des données américaines. Donc tout d'abord, les travaux de Pierre Bourdieu dans La Distinction sur des données françaises ont montré deux points très clairement. Tout d'abord qu'il existe ce qui s'appelle une hiérarchie culturelle entre d'un côté la culture légitime et la culture populaire. Donc l'idée ici est qu'il y a une homologie entre statut social et goût esthétique. Les classes supérieures préfèrent la culture classique, dite légitime, qui est supportée, soutenue par les institutions publiques, notamment, et le système éducatif, alors que les gens avec un statut social moins élevé préfèrent la culture dite populaire. Et donc il y a une forte distinction, une forte différence entre ces deux groupes de culture, pour ainsi dire. Le deuxième point de Pierre Bourdieu est ce qui s'appelle la distinction. Et donc c'est l'idée que les gens des classes supérieures évitent les types de culture associés avec les classes populaires. Donc si jamais j'aime la musique classique, je vais dire que je déteste le rap, parce que pour moi, le rap, c'est associé avec des gens d'un statut social qui est différent du mien. Voilà. Et donc il y a un processus continu de distinction des classes supérieures qui sans cesse affirment leurs différences à travers les goûts esthétiques et en particulier les goûts musicaux. Le deuxième ensemble de recherches, donc élaboré sur des données américaines cette fois-ci, à partir des travaux de Peterson en particulier et de ses collaborateurs, montre au contraire que les classes supérieures aux États-Unis sont plus tolérantes que les autres. Donc c'est le contraire de la distinction. La distinction, c'est l'idée que les classes supérieures sont plus élitistes, plus snobs que les autres, alors que Peterson dit que les classes supérieures sont au contraire plus tolérantes et plus ouvertes d'esprit en matière musicale que les autres. Donc elles aiment à la fois la musique classique, mais également le reggae, la soul, le jazz, tout un ensemble de genres musicaux. Donc ma question ici, c'est de savoir, est-ce qu'il s'agit de différences sociologiques, de différences de tradition sociologique, ou est-ce que c'est des vraies différences entre les deux pays, et que se passe-t-il à l'ère du numérique? Donc il y a eu un exemple de recherche comparative, qualitative, qui a montré que les Français étaient quand même plus snobs que les Américains, pour résumer. Mais cela valait le coup d'être exploré quantitativement. Donc, pour résumer mes questions de recherche. Donc, tout d'abord, première question, quelles sont les hiérarchies musicales en France et aux États-Unis? Est-ce qu'on peut dire que dans les deux pays, il y a la même opposition entre culture légitime et culture populaire? Ou est-ce que c'est seulement en France? Deuxième question, quelle place pour l'éclectisme musical chez les classes supérieures? Est-ce que les classes supérieures en France, est-ce que les classes supérieures sont snobs, dans un processus de distinction, ou omnivores en France et aux États-Unis? Et enfin, quelles sont les transformations générationnelles avec la révolution du numérique? Donc de savoir si jamais Internet a changé les choses. Alors, je m'appuie sur deux bases de données. Tout d'abord, l'enquête sur les pratiques culturelles des Français, donc l'équivalent de l'enquête québécoise qui a été abordée plus tôt, donc 2008, qui est menée par le ministère de la Culture en France, avec un peu plus de 5000 questionnaires remplis. Et du côté américain, le Survey of Public Participation in the Arts, qui est mené par le National Endowment for the Arts en 2002, et où il y a, comme vous voyez, beaucoup plus de questionnaires, plus de 17 000. Et donc, la question sur laquelle je travaille, c'est quels genres musicaux appréciez-vous? Et il y a une question similaire dans les deux sondages. Et je travaille sur 8 genres musicaux comparables, qui sont musique classique, opéra, jazz, rock, reggae, rap, dance electronica et heavy metal. Donc juste un petit panorama en fait de la structure des goûts musicaux dans les deux pays. Donc comme vous pouvez voir, pour musique classique et opéra, c'est très similaire. Donc c'est vers 25% dans les deux pays et vers un peu moins de 10%, 9% dans les deux pays. De même pour rap et dance, où il n'y a pas trop de différence. Et par contre, il y a des différences très marquées pour jazz, reggae, rock et heavy metal, où beaucoup plus de gens déclarent écouter ces genres aux États-Unis par rapport à la France. Mais il faut noter que tous ces genres sont nés aux États-Unis, ce qui permet d'expliquer aussi pourquoi, ou en partie aux États-Unis, ce qui permet d'expliquer pourquoi ils les écoutent plus. Et il faut aussi remarquer que l'image générale, c'est que les Américains disent aimer beaucoup plus de choses que les Français. Si jamais vous regardez l'ensemble des pourcentages, les Américains disent qu'ils aiment beaucoup plus de genres que les Français, ce qui irait dans le sens d'un plus grand snobisme des Français, sans doute. Alors, voilà. Donc maintenant, je vais passer à mes questions de recherche, mais sans présenter les travaux statistiques. Ceci dit, si jamais quelqu'un veut plus d'informations sur la méthodologie utilisée, je serais ravie de partager mes modèles. Alors, tout d'abord, la question des hiérarchies musicales. Donc, ce que je trouve, à partir d'une analyse factorielle sur les 8 genres musicaux, donc une analyse factorielle, c'est une méthode qui permet de dégager les structures sous-jacentes aux données, en fait. Ce que je trouve, c'est que, contrairement à l'idée que les États-Unis et la France ont des hiérarchies musicales très différentes, et en particulier contrairement à l'idée qu'il n'existe pas de hiérarchie musicale aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est un pays de culture de masse où il n'y a pas de différence entre les genres, je trouve des résultats extrêmement similaires, c'est-à-dire que dans les deux pays, musique classique, opéra et jazz sont des genres légitimes, appréciés particulièrement par les classes supérieures, que ce soit mesuré en termes de diplôme, de revenus ou de diplôme des parents. Donc plus le revenu est élevé, plus le diplôme est élevé, plus le diplôme des parents est élevé, plus on a de chances d'aimer la musique classique, l'opéra et le jazz dans les deux pays. Donc les hiérarchies musicales sont, en tout cas à partir de cette première analyse, relativement similaires en France et aux États-Unis. Ma deuxième question est celle de l'éclectisme musical. Donc est-ce que les classes supérieures sont snobs ou omnivores en France et aux États-Unis ? Donc à partir d'une régression linéaire, je trouve qu'il y a une corrélation positive entre le fait d'avoir des goûts légitimes, donc d'aimer la musique classique, l'opéra et le jazz, et le fait d'aimer plus de genres populaires que les autres répondants. Donc l'idée ici, c'est que aimer la musique classique augmente la probabilité que l'enquêté apprécie davantage de genres populaires. Donc cela va dans le sens que les classes supérieures sont omnivores en France et aux États-Unis. Donc que les Français ne seraient pas dans un processus de distinction et que dans les deux pays, les classes supérieures seraient omnivores et tolérantes envers la culture populaire. Cependant, donc le résultat pour les États-Unis n'est pas très surprenant vu que c'est là où la théorie sur les omnivores est née, n'est-ce pas ? Mais en France, par contre, c'est plus surprenant. Donc j'ai voulu confirmer ce résultat en utilisant une question sur les dégoûts musicaux. Donc une question qui disait, quels sont les genres que vous n'écoutez pas, car vous savez que vous ne les aimez pas ? Voilà. Donc l'idée, à partir de ces résultats sur l'omnivorité, c'est que, donc si jamais je transpose ces résultats en termes de dégoût, c'est qu'avoir des goûts légitimes devrait diminuer le nombre de genres musicaux populaires détestés. N'est-ce pas ? Donc, j'exploite la question sur les dégoûts musicaux, et la grande surprise, en France, avoir des goûts légitimes augmente en fait le nombre de genres musicaux populaires détestés. Ce qui est complètement incohérent à première vue, parce que ça donne l'idée que les classes supérieures en France sont à la fois plus tolérantes et plus exclusives, plus snobs que les autres. Donc, que se passe-t-il ? C'était un moment difficile. Mais, voilà, donc... Voilà le puzzle. Mais que font les Français ? D'un côté, avoir des goûts légitimes augmente le nombre de genres populaires appréciés. De l'autre côté, avoir des goûts légitimes augmente également le nombre de genres populaires détestés. Donc, après quelques errances que je ne vais pas détailler ici, l'idée, pour expliquer ce résultat intrigant, c'est qu'il existe en fait un changement générationnel. C'est-à-dire qu'avoir des goûts légitimes a différentes conséquences pour les jeunes générations et pour les générations plus âgées. Donc les jeunes, l'idée ici, c'est que les jeunes générations qui ont des goûts légitimes sont omnivores, donc que pour les jeunes, aimer la musique classique est aussi associé au fait d'aimer plus de genres populaires, alors que pour les générations plus âgées, avoir des goûts légitimes est associé à un plus grand snobisme, c'est-à-dire à une plus grande exclusivité et à des processus de distinction, où pour les générations plus âgées, juste... Quand on aime la musique classique, on n'aime rien d'autre. Donc, je vous présente un graphe. Je ne sais pas si jamais... Oui, c'est assez clair. Donc, l'idée ici... Donc, vous voyez, il y a l'âge à l'horizontale et à la verticale, le nombre de genres musicaux que les gens déclarent aimer ou détester. Donc, je vais me concentrer sur deux des lignes, là. Donc, d'abord, la ligne bleu clair qui descend. Donc, elle montre que le nombre de genres populaires appréciés par les enquêtés, avec des goûts légitimes, diminue de manière frappante avec l'âge. Et concrètement, après 65 ans, les gens qui aiment la musique classique n'aiment rien d'autre. Donc ça, c'est le dernier petit point entre 75 et 95 ans, qui est très, 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 très près de zéro. Hein. Voilà. La deuxième ligne auquel j'aimerais que vous portiez attention est la ligne violette qui monte et qui montre, elle, que donc, toujours les enquêtés avec des goûts légitimes, c'est-à-dire qui aiment la musique classique, l'opéra ou le jazz, on regarde le nombre de genres populaires qu'ils détestent. Et comme on voit, ça augmente fortement avec l'âge. C'est-à-dire qu'entre 15 et 17 ans, Le nombre de genres populaires détestés est autour de 1,2, 1,3. Et alors que quand on a plus de 75 ans, ça monte à 2,7. Donc concrètement, pour les personnes les plus âgées, le nombre de genres populaires détestés est beaucoup plus élevé. Donc, et après, par ailleurs, j'ai des régressions qui trouvent les mêmes résultats en contrôlant pour tout un ensemble de facteurs, et donc pour montrer que c'est bien ça, que c'est bien l'âge qui est la force déterminante ici. Donc mes résultats, pour résumer. Tout d'abord, par rapport à ma première question de recherche, je trouve qu'il y a une hiérarchie musicale similaire en France et aux États-Unis. C'est-à-dire que musique classique, opéra et jazz sont des genres légitimes appréciés par les classes supérieures. Donc cela va contre l'idée que les États-Unis sont un pays où il n'existe pas de hiérarchie culturelle. Il existe une hiérarchie culturelle aux États-Unis et qui est très similaire à la hiérarchie qui existe en France. Le deuxième résultat, en ce qui concerne la question de l'éclectisme musical des classes supérieures, c'est que aux États-Unis, tous les enquêtés sont omnivores. Donc là-dessus, je ne fais que confirmer en fait les résultats de la littérature sociologique existante, mais l'idée que les classes supérieures sont en fait effectivement plus ouvertes d'esprit, plus tolérantes envers la musique populaire que le reste de la société. Et en France, pour résumer les résultats, l'idée est que les jeunes générations sont omnivores, mais les générations plus âgées sont distinguées ou snob. Donc comment expliquer cette différence générationnelle, en fait, dans la structure des goûts musicaux des classes supérieures? Donc il existe tout un ensemble, il existe plusieurs explications, hein. Donc tout d'abord, la révolution numérique et l'explosion de l'offre musicale est certainement un des plus importants facteurs qui est à l'œuvre ici. Donc l'idée, c'est que les jeunes générations ont accès à une offre musicale beaucoup plus importante et en grande partie du fait de la révolution numérique et de cette forte participation à Internet que tout le monde ici connaît. Un deuxième ensemble de raisons, c'est l'idée d'un changement de valeur, en fait. C'est-à-dire que la tolérance est devenue quelque chose de beaucoup plus valorisé qu'avant, où la distinction était plus acceptable. Et enfin, une troisième ligne d'explication, c'est l'idée que les jeunes, désormais, interagissent avec beaucoup plus de gens d'horizons différents et sont notamment beaucoup plus mobiles. Et que, de ce fait, ils sont en contact également avec beaucoup plus de genres musicaux différents. Voilà. Et pour conclure, donc, en très grosse ligne, le fait que chez les jeunes générations, il existe un alignement de la structure des goûts musicaux en France sur l'exemple américain, donc c'est-à-dire qu'il y a un grand mouvement en France comme aux États-Unis vers plus d'omnivorité. Deuxième point important, c'est que Internet est une des causes les plus importantes, une des causes centrales de ce changement historique, du fait de l'explosion de l'offre musicale auquel les jeunes peuvent accéder. Et troisièmement, que ce nouveau paysage des goûts musicaux chez les jeunes, c'est-à-dire que les gens qui ont des goûts légitimes aiment également la musique populaire, doit faire réfléchir sur les leçons qui peuvent être en tirées pour les politiques publiques. Et donc c'est vrai que là, on pense à comment faire pour favoriser, disons, une consommation des jeunes qui soit plus diversifiée. Donc je pensais par exemple à la multiplication des passeports pour les arts, qui permettent aux jeunes à la fois d'aller voir des concerts de musique classique et des concerts de culture populaire, par exemple. Et donc l'idée, ce serait de savoir comment est-ce que ces nouveaux résultats, ce nouveau paysage des goûts musicaux peut être intégré dans des politiques publiques. Merci beaucoup.